Buongiorno.
Vous aimez le cinéma ?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Ça te satisfait ?
Intensément.
Sur Divergence FM.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Ici, avec nous.
Le silence va plus vite à reculons. Trois fois.
Cinérama sur Divergence FM.
Eh bien, je vous écoute.
Bonjour et bienvenue à Cinérama. Nous sommes le mercredi 7 octobre. C'est l'émission de cinéma sur Divergence FM. Alors, autour de la table aujourd'hui, Martin et Boris.
Salut.
Salut.
Alors Martin, toi tu es venu très légèrement.
Oui, un peu les mains dans les poches, voilà, c'était mon anniversaire hier soir, j'ai passé la nuit à boire et au petit matin j'ai eu beaucoup de mal à préparer du matériel pour Cinérama.
Bientôt les photos sur Facebook j'imagine.
Voilà exactement tout ça. Donc je vous parlerai un petit peu de Pandorum que je suis allé voir hier et je m'occuperai aussi de la ponctuation musicale de l'émission.
Quelle ponctuation,
voilà, je vous laisse la surprise pour tout à l'heure.
Et toi, Boris, le petit Nicolas, j'imagine, le dernier.
Voilà, c'est ça, le petit Nicolas. Oui, alors le petit Nicolas, aujourd'hui, vous a préparé une chronique sur Thirst, Ceci est mon sang, donc le dernier film en date de Park Chan-wook. J'en ai profité donc, pour revenir un peu sur la filmographie du réalisateur et puis aussi sur l'état de santé du cinéma coréen dans son ensemble. Alors, je suis d'autre part allé voir Mary and Max, donc un film en stop motion. Mais voilà, moi, c'était pas mon anniversaire, mais... pour tout vous dire, je suis un petit peu malade, voilà, je me sens pas très bien, du coup j'ai pas non plus fait vraiment dans le lourd aujourd'hui, et bon, voilà, j'en parlerai peut-être un tout petit peu si on a le temps, etc. etc.
Voilà, donc une équipe affaiblie, hein, mais on le précise, tu n'as pas le
c'est,
virus
c'est l'hiver
H1N1,
bientôt,
apparemment, enfin, on a testé tout à l'heure, visiblement par rapport à tes symptômes.
Non, une basse bronchite, certainement, quelque chose du genre.
Et toi, sinon Vincent, ça va, la vie
Sinon, moi, c'était pas mon anniversaire et je suis loin d'être malade, mais donc j'ai un peu travaillé, notamment, et bien, sur le syndrome du Titanic, puisque c'est aujourd'hui que sort le documentaire de Nicolas Hulot et du co-réalisateur dont j'ai fait une petite interview. Donc vous pourrez l'écouter dans cette émission. Alors si on a du temps, on écoutera le fameux montage que j'ai fait autour de Sean Connery, là où je m'amuse à aller voir les artistes pour leur parler cinéma, voir comment le cinéma intervient dans leur... dans le rare. Et puis surtout, on va commencer avec Soderbergh, Steven Soderbergh, puisque The Informant est sorti la semaine dernière et que je suis allé le voir et que je suis un fan de ce réalisateur. Donc on commence l'émission avec Steven Soderbergh. Alors il l'a annoncé il y a peu dans une interview accordée aux Inrecuptibles. Steven est proche de la ligne d'arrivée, autrement dit, il ne voit pas ce qu'il peut faire de mieux, car il sent confusément qu'il n'y a plus de spectateurs pour le suivre. Et qu'en plus, les studios, malgré ses états de service, ne lui font plus confiance et préfèrent un formatage sans accroc. Alors il a été viré par le patron de Sony Pictures du projet Moneyball. Vous voyez ce que c'est Moneyball ? C'est un film avec Brad Pitt, voilà, qui a déjà joué avec Steven Soderbergh. Donc les places sont rares et rien ne sera jamais facile pour ce réalisateur qui a débuté sa carrière internationale à 26 ans seulement. Alors il faut dire que Steven Soderbergh est insaisissable et qu'il est capable du meilleur comme du moins bon, du film à gros budget et vedette au film tourné en vidéo dans son quartier. Alors il s'est d'abord fait remarquer avec Sexe, Mensonge et Vidéo, un film intimiste et brillant avec un James Spader qui recueille les confessions érotiques des jeunes femmes.
Histoire
de combler son impuissance et son sentiment de dérédiction. Un regard sur la trentaine en prime, on écoute.
L'organe, c'était comme une entité, séparée, comme indépendante du reste du mec. Enfin bref, quand il a fini par le sortir, que je l'ai vu et touché, j'ai complètement oublié qu'il y avait un garçon au bout. D'ailleurs, ça m'a fait sursauter quand il m'a parlé.
Qu'a-t-il dit ?
Il a dit que ma main était douce.
Que s'est-il passé ensuite ?
J'ai remué la main et il a arrêté de parler.
Voilà donc un petit extrait des confessions qu'on peut entendre donc dans ce film Sexe, mensonges et vidéos. Alors coup d'éclat à Cannes en 89 où il reçoit la Palme d'Or et jusqu'à maintenant il est le plus jeune réalisateur à avoir reçu ce prix. Alors c'était Wim Wenders qui était le président du jury. Il a avoué quelques temps après qu'il avait peut-être un peu exagéré. Enfin voilà. Concernant cette Palme d'Or. Alors bon, on se dit impossible qu'il s'arrête en si bon chemin. Il incarne alors la face cachée du cinéma américain, une lumière venue d'ailleurs qui n'intéresse malheureusement que les Européens. Et Kafka, en 92, est dans cette veine, un thriller baroque qui s'imprègne de l'univers de l'écrivain tchèque, une bonne intrigue à la Brésil et un vrai style, l'image d'abord avec un cadre soigné, des scènes éclairées de justesse et puis une narration qui soigne les flashbacks. Alors le succès ne sera pas forcément au rendez-vous, une étiquette lui colle à la peau, celle d'un type bourré de talent sûrement, mais qui pourrait ne jamais passionner les foules. Suit King of the Hill, un drame efficace se déroulant pendant la Grande Dépression qui aurait peut-être pu avoir un succès en salle, mais non, pas du tout, ça n'a pas marché. Underneath ou À fleur de peau en 96 ne passionne pas plus, voire moins. C'est pourtant le remake d'un polar, Pour toi, j'ai tué, un film très stylé avec des filtres colorés qui donnent une empreinte remarquable au film, un procédé qu'il réutilisera notamment avec Trafic. Mais là où Soderbergh se condamnera aux salles exclusivement estampillées cinéma de recherche, c'est avec Schizopolis. C'est une comédie complètement expérimentale à la narration déroutante, un regard humoristique et ironique et un tantinet pessimiste sur notre société, ses sectes, son ascenseur social, son bonheur à deux balles et j'en passe. Un exercice de style inattendu tourné avec trois fois rien entre amis et dont Soderbergh incarne le personnage principal. Et on va écouter un tout petit extrait, je précise juste la scène, donc c'est Steven Soderbergh qui incarne un employé et qui descend dans les sanitaires de son entreprise et qui commence à faire tout un tas de grimaces devant la glace. Et ensuite rentre un de ses collègues de travail et bon, c'est en anglais mais je vous traduirai après, on écoute.
Oh hey, how's it going?
Oh, not good.
Okay, I'll see you.
Voilà, moi ça me fait plutôt rire. Vous avez qui peut traduire ce qu'il a tenu?
Salut, ça va? Non, ça va pas très bien. Oui, je peux voir ça.
Ouais. Ok, je vois. Ciao. Voilà. Bon, c'est un peu mordant comme film. En revanche, s'il a été distribué en France, il est impossible actuellement de trouver une version originale sous-titrée, sauf en cassette vidéo à 100€ sur Internet. Voilà, c'est devenu un collector ce film Schizopolis. Il faudra attendre maintenant que, un grand coffret spécial Soderbergh sorte. Pour le revoir, parce que moi j'aimerais bien le revoir, parce que le souvenir est quand même un peu vieux. Donc, Schizopolis, c'était pour rire et pour s'amuser. Et puisque ce film annonce le passage du réalisateur du côté obscur, celui des studios, avec Hors d'atteinte, où le tandem Clooney en cambrioleur irrésistible et Jennifer Lopez en flic sexy se donne la réplique. Tout ça emballé avec légèreté et humour, la musique qui va bien, façon cinéma des années 70. Période que Soderbergh adore, normal, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à regarder des films. Hors d'atteinte est un petit succès qui va vite retomber avec The Limay, l'anglais, en 99. Un film policier, là encore stylé, fait de flashbacks, de voix off et d'un montage saccadé à la Godard d'à bout de souffle. Le rôle principal est donné à Terence Stamp, le visiteur du théorème de Pier Paolo Pasolini. Mais le meilleur est à venir, alors le meilleur commercialement. Déjà, Erin Brockovich, sous ses allures de film à la morale ras des pâquerettes, donne un beau rôle à Julia Roberts. Soderbergh commence alors à intéresser les foules et il enfonce le clou avec Trafic, film qui nous montre le chemin que prend la drogue pour entrer aux États-Unis.
Le poste frontière de San Ysidro, Californie. Une moyenne de 45 000 véhicules et de 25 000 piétons par jour.
Et au cours des 6 derniers mois, vos chiffres ont triplé.
Le chiffre des saisies, oui, c'est ça.
Des saisies de drogue, ce qui veut dire qu'en proportion, il y a 3 fois plus de drogue qui a réussi à entrer.
Oui, je sais que le chiffre est effrayant, mais je pense que c'est ça. Sincèrement, je préférerais vous annoncer que nous en sommes à 60 ou 70% de saisies, mais la vérité est plus proche de 40 ou 50% du total qui transite par ici. Et ce sont des sommes colossales qui sont en jeu. C'est pour ça qu'on assiste à tous ces meurtres et à tout ce qui s'ensuit. Parce qu'il y a une organisation qui en combat une autre. Quand tout se passe bien, ils ne s'entretuent pas. C'est quand ça va mal, que c'est plus difficile pour eux, qu'ils perdent de la marchandise et que des chauffeurs sont arrêtés. C'est là qu'il y a des meurtres. C'est aussi simple que ça.
Oscar 2001 du meilleur acteur dans un second rôle pour Benicio del Toro, meilleur réalisateur pour Steven Soderbergh, meilleur montage et meilleure adaptation, car au départ Trafic était une série anglaise. Alors le film a fait presque 2 millions d'entrées en France et partout dans le monde, on a applaudi. Là encore, on aperçoit la patte Soderbergh le besogneux qui n'hésite pas à tourner dans plus de 110 endroits pour un film choral avec une esthétique marquée. Alors les scènes avec Kirk Douglas, le monsieur anti-drogue qu'on a entendu ici,
Michael.
Sont... Ah oui, Michael, Kirk, c'est son père, Spartacus, tout ça. Le monsieur, donc anti-drogue Michael Douglas, eh bien, les images sont parées d'une lumière froide alors que les scènes du Mexique sont jaunies et surexposées. Alors on peut peut-être parler de trafic parce que je pense que vous l'avez vu ce film.
Oui, ça fait partie des films de Soderbergh que j'ai vu. C'est vrai que c'est un film très intéressant qui se suit bien. Et qui montre aussi bien la réalité, je pense, du trafic et de la gestion du trafic aussi par la politique aux États-Unis. Il y a cette dichotomie là entre les scènes qui se passent aux États-Unis, les scènes qui se passent au Mexique, qui est assez bien rendue finalement par cet usage un peu caricatural des filtres, donc très bleu, très froid quand on est aux États-Unis et au contraire très lumineux et des filtres très dans les orangés, dans les jaunes au Mexique. Et c'est un bon film. Je savais pas que Benicio del Toro avait eu l'Oscar pour ce rôle, mais c'est vrai qu'il est très très bon comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça c'est un des films de Soderbergh à voir, à mon avis.
Et à revoir. Boris ?
Bah oui, un film choral effectivement, où chacun des acteurs présents dans ce film propose quand même quelque chose d'assez prodigieux, d'assez efficace. Moi, ça fait un moment que je l'ai vu, ce film, donc c'est vrai que j'en ai pas gardé un souvenir impérissable, mais c'est clair que spontanément, j'inviterai les gens à le découvrir, évidemment, oui.
Une bonne empreinte, donc.
Oui.
Après Trafic, la flopée de dollars et le succès critique, Soderbergh se paie le casting qu'il faut pour...
Ce sera vraiment une première.
La cible, c'est quoi ?
Depuis quand t'as pas vu Las Vegas ?
Tu veux qu'on braque un casino ? Trois casinos.
Las Vegas.
Las Vegas.
Las Vegas.
Fantastique.
C'était un casse impossible.
La sécurité des casinos est totalement imbattable. Vous êtes vraiment malade.
Alors, bon, il faut quand même répondre à Squeeze. Alors, qu'est-ce qu'on a entendu ?
Je sais pas. C'était la bande-annonce de Ocean's Eleven.
Eleven, ouais. Oui.
Remake de L'Homme de Las Vegas.
De L'Inconnu.
L'Inconnu
de Las Vegas, voilà.
Avec,
et le meilleur des trois, d'ailleurs.
Et le meilleur des trois, c'est bien ce que je pense aussi. Donc là, bingo, une nouvelle fois, c'est le succès. Alors, il faut dire qu'avec Brad Pitt, Clooney, Matt Damon et Andy Garcia, c'était pas difficile de rameuter le public. Alors, on raconte même que Clooney, devenu le pote à Soderbergh, a consenti à faire baisser son cachet et celui des autres pour que le projet soit mené à son terme. Alors moi, j'avoue que j'ai vraiment un faible pour la scène finale. Enfin, moi, je trouve que ce film est une totale réussite.
C'est vrai, dans son style. Dans le genre film de casse, malin.
Ouais, film d'action, c'est vrai.
C'est une vraie réussite. En plus, il y a cette musique là qu'on a pu entendre très vite dans la bande-annonce qui rehausse un peu, qui donne un petit côté dansant à l'ensemble. C'est un film très fun. Et c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de film de casse malin. Depuis, il y a eu genre Inside Man, il y en a eu plusieurs autres. Ça a presque relancé un peu la mode du film de casse, la série des Ocean.
Alors au final, Soderbergh s'amuse avec ses acteurs, avec les codes du genre, en les maltraitant un peu, comme le coup de la pile usée. Vous vous souvenez de ça ? Mais je me souviens plus ce que ça empêche, mais je crois que ça empêche une explosion. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Paf, pile usée. Enfin voilà, il joue avec l'attente du spectateur. Alors comme Ocean Eleven a bien marché, il en refera un autre, le 12, qui sera tout aussi léger et précis, où il se permet des mises en abîme intersidérales, puisque le personnage joué par Julia Roberts essaie un moment, dans un hôtel, de se faire passer pour la vraie Julia Roberts dans notre vie à nous, dans notre monde, auprès de Bruce Willis, qui joue donc son rôle, mais Bruce Willis l'a des masques pour une histoire de, je crois qu'elle est gauchère et pas droitière, enfin bon, quelque chose comme ça. Mais voilà, donc il s'amuse énormément avec tout ça.
C'est peut-être la seule scène à retenir du deuxième. C'est vrai que la performance de Bruce Willis, c'est assez rigolo d'ailleurs, on retrouve le couple Bruce Willis-Julia Roberts qui avait fait aussi une petite intervention mise en abîme dans The Player d'Altman, où le film qui est tourné dans le film finit finalement, ça démarre, c'est un film d'auteur, et ça finit finalement comme une super production larmoyante avec Bruce Willis et Julia Roberts. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu.
Donc ils se retrouvaient.
Voilà, ils se retrouvaient pour la deuxième fois. Ouais.
Et Bruce Willis était pressenti normalement pour jouer dans Ocean Eleven. Alors, par qui il a été remplacé, c'est peut-être Pete d'ailleurs. Donc le 13 de cette série des Oceans indiquera à Soderbergh qu'il est peut-être temps d'arrêter la série. Humour, suspense, action, ça va un moment, mais même lui finit par se lasser. Alors à ce jour, c'est Ocean Eleven quand même qui est le plus gros carton de Soderbergh, avec 25 millions d'entrées en Europe. Et Ocean, qu'est-ce que je disais ? Et Brockovich en a 12 millions, donc ça fait quasiment deux fois moins. Alors en 2003, c'est une comédie expérimentale sur le monde hollywoodien, tournée en 18 jours en DV avec un petit budget. L'essentiel du budget ayant été pris pour le cachet de Julia Roberts, qui est décidément son actrice. Alors en France, ça fait 45 000 entrées. Et la comédie, j'ai oublié d'ailleurs, Full Frontal. Voilà, c'était Full Frontal. En 2003, Solaris sera le film de science-fiction du réalisateur, genre auquel il ne s'était pas encore attelé, remake du Solaris de Tarkovsky. Autant dire que là, ça n'a rien à voir. Il faudrait prendre 10 minutes pour en parler, surtout que moi, je le revois. Donc c'est un film sobre, rien de spectaculaire. La science-fiction n'est ici qu'un futur. Et ce sont les sentiments qui comptent avant tout. Et là, notamment le sentiment amoureux, alors que ce n'était pas forcément vrai chez Tarkovsky. Vous voulez peut-être en parler d'ailleurs de...
Non, bah oui, j'en parlerai peut-être rapidement en parlant de Pandorum, parce que c'est aussi un film de vaisseau. C'est vrai que ce n'est pas seulement un film de sentiments. Il y a ce gros morceau dans le film de Soderbergh. C'est à mon avis un des bons films de Soderbergh aussi à voir, un des bons films de SF assez récent. Enfin, ça date quand même de 2003. Mais oui, c'est un film à voir. C'est pas du tout la SF qu'on a l'habitude de voir.
C'est genre Star Wars, c'est pas Transformers, les explosions,
immatériel en fait. C'est la présence de cette planète qui influe donc sur les tempéraments et qui va chercher dans leurs souvenirs pour prendre forme.
Mais c'est vrai que oui, j'avais pas vu le film de Tarkovsky qui dure dans les 3 heures ou peut-être même plus, qui devait être beaucoup plus psychanalytique et beaucoup plus
mystique surtout. Hein, voilà. Parce que Tarkovsky est connu pour.
Mais c'est vrai que le livre de Stanislas Lem paraît difficilement adaptable quand on lit, avec justement cette planète qui est presque un personnage et qui engendre des sortes de manifestations à l'intérieur de ce vaisseau d'exploration. C'est un film assez intéressant. Il y a quelques maladresses, peut-être dans ce côté justement un peu tire-larme, un peu trop mièvre par moment, mais qui vaut le coup.
Et de bout en bout, hein, c'est Georges Clooney qui tire le film aussi. Hein. Donc, après ce Solaris, suit un autre film qui s'écarte des studios hollywoodiens, c'est Bubble, tourné en très peu de temps en vidéo HD avec des acteurs non professionnels. Il sortira simultanément en salle et en DVD. Et tout ça pourquoi ? Pour lutter contre le piratage. Voilà. C'est comme ça qu'il a décidé de le faire, Soderbergh.
Alors, c'est pas mal ça d'ailleurs, je l'ai vu, c'est pareil, j'en garde un bon souvenir. Quoi.
Avec comme cadre la pauvreté, puis un meurtre, voilà. Enfin, mais tout se passe avec des acteurs non professionnels, donc complètement nouveau pour Soderbergh.
Il y a une relation entre un jeune et puis une personne qui travaille...
Qui pourrait être sa mère.
Ouais, voilà, qui pourrait être sa mère, et une relation improbable qui se met en place entre eux, ouais, c'est assez intéressant, ouais.
En 2007, The Good German, tourné en noir et blanc avec George Clooney, Kate Blanchett. Le cinéaste s'est compliqué la tâche en tournant comme à l'époque où se situe le film, c'est-à-dire en 1945 à Berlin. Alors il s'est procuré plusieurs sortes d'objectifs fréquemment utilisés dans les années 40, mais quasiment inexistants aujourd'hui. Et comme à l'époque, le film a été tourné uniquement à Los Angeles, donc dans un seul cadre, et a été éclairé exclusivement à l'aide de lumière incandescente et aucun micro-émetteur n'a été employé. Total de ses entrées en Europe, 579 000 spectateurs, donc il est évident que ça fait beaucoup moins que ces grosses productions à la Erin Brockovich et Ocean Eleven. J'en suis où ? Alors, eh bien, à Che l'Argentin, la première partie, et Che la Guérilla, film sorti en janvier 2009 ici en France. Ça a été une grande déception. Parce que Soderbergh aurait bien aimé tourner une mini-série en 10 parties, histoire de bien cerner le guérillero, mais ça n'a pas été possible. Il a dû batailler aussi pour que la langue soit l'espagnol, puisque les Américains détestent le sous-titrage. Et donc finalement, Benicio del Toro, lui qui maîtrise l'espagnol, voulait absolument aussi que ce soit en espagnol. Et ça paraissait d'ailleurs logique, hein, puisque ça se passe d'une part à Cuba, la première partie, et puis l'autre partie se passe en Amérique du Sud, en Bolivie. Alors le film a remporté le prix d'interprétation avec Benicio del Toro à Cannes 2008, mais la critique l'a quelque peu égratigné et il n'a pas suscité l'engouement du public. Et selon le réalisateur, le piratage a détruit en plus sa carrière en Amérique du Sud après son exploitation en Espagne. Voilà, paraît-il qu'après la projection en Espagne, il y a plein de copies qui tournaient ensuite en Amérique du Sud. Et voilà. Donc il a beaucoup de problèmes avec le piratage Soderbergh, mais en même temps, il n'en rajoute pas une couche. Ensuite, il y a eu deuxième film de 2009, Girlfriend Experience, que je pensais, Martin, que tu avais vu.
Et non.
Moi non plus, je ne l'ai pas vu. Complètement passé inaperçu.
Ouais, il a fait un sacré flop. Ouais.
Mais ça, c'est vraiment
il est même veine, passé, je l'ai raté, moi, à mon
tour. Ouais, il est passé au Diago, entre autres.
C'est vraiment la veine arty de Soderbergh. Oui. C'est vraiment le film confidentiel qui est presque un exercice de style. Là, il fait appel à une actrice porno pour faire un film qui parle du désir, de la prostitution d'une certaine façon. Enfin, c'est un personnage qui vend ses services comme une prostituée, sauf qu'elle propose aussi de faire la petite amie. Donc de d'être attentionné, de jouer la comédie peut-être un peu plus que d'autres professionnels. Et oui, je crois qu'il a été assez mal reçu par la critique. Beaucoup de gens ont dit que c'était assez inutile, assez vain. Donc voilà, mais je ne l'ai pas vu.
Mais voilà, hein, donc toujours petit projet, on passe du Che, qui était quand même une grosse production, à Girlfriend Experience dans la même année. Et puis on revient à un autre projet, donc de Informant, qui est sorti la semaine dernière. Donc ça, c'est son dernier film, qui est basé sur le best-seller de Kurt Ehrenfeld.
T'as des problèmes alors aussi avec
Ehrenfeld. Normalement, il faut s'entraîner avant de faire son papier, mais je ne l'ai pas fait. Donc titré de Informant, A True Story, publié en 2000, le livre retraçait l'histoire vraie de cette taupe infiltrée par le FBI pour enquêter sur la grande société d'agroalimentaire américaine Archer Daniels Midland. Alors c'est une comédie survitaminée avec un Matt Damon qui tient plutôt bien son rôle. Hein. Nous sommes dans le secret des grandes multinationales de l'agroalimentaire et on discute du prix de la lysine sur les marchés mondiaux. Il y a une entente sur les prix, aberration capitaliste dans un monde où la concurrence doit stimuler les marchés. C'est une histoire comparable à celle qui avait permis à SFR, Orange et Bouygues de s'entendre sur le prix des communications des portables en France pendant une bonne période, faisant de la France en Europe, et c'est d'ailleurs encore le cas, le pays où les communications sont les plus coûteuses, et 534 millions d'euros d'amende pour les trois opérateurs en 2005, souvenez-vous. C'est une digression, hein, vous me la permettez. Plus exactement, donc, les trois opérateurs voulaient stabiliser leur part de marché plutôt que se dégommer à coup de promotion. Et en ce moment, eh bien, ça va plutôt bien. Hein. Même si Free est prêt à rentrer sur le marché du mobile français, il semblerait que le président Sarkozy ne veuille pas vraiment d'une entrée avec une quatrième licence, puisqu'il a dit que le moins cher n'était pas forcément le meilleur, comme si c'était
Sarkozy. Il est bien ce petit
juger. Voilà, donc c'était une digression, mais en même temps, ça parlait exactement du même thème que de Informant, mais cette fois-ci, c'était français. Donc c'est une sale histoire que celle du prix de la lysine, et Mark Whittaker, cadre de cette société qui bafoue le capitalisme, a décidé de lâcher le morceau, mais finalement, qui dit vrai, qui dit faux, Whittaker cache-t-il quelque chose? Son comportement est pour le moins surprenant, et sa coopération avec le FBI plutôt compliquée.
À qui aviez-vous parlé de notre coup de filet?
Eh bien, il fallait bien que j'avertisse ma secrétaire. Les gars, je suis le directeur de la division des bioproduits. Il faut qu'elle sache où me joindre. Je lui ai dit il y a des mois. Tout ce que j'ai dit, c'était « Lise, je vais travailler avec le FBI. Je vais peut-être être dur à joindre. Rien d'autre. Je vous assure qu'elle ne savait pas du tout ce qu'on faisait. Peut-être que vous m'avez déjà entendu parler de Cathy Doherty une ou deux fois. C'est une alliée en qui j'ai confiance. Ça m'aurait embêté qu'elle ait peur.
Pourquoi vous avez fait ça, Marc, enfin?
Je lui fais confiance. Cathy, c'est quelqu'un de bien.
Qui d'autre? Déconnez pas avec nous, Marc.
Kirk Schmidt. Schmitty, quoi.
Voilà, donc Whittaker, là, est aux prises avec le FBI. Le cinéaste utilise encore le thème de la manipulation et du mensonge, thème récurrent de son cinéma. Le cadre est serré, la mise en scène soigneuse et Soderbergh nous gratifie de quelques fantaisies. La musique et la typo liant les séquences sont empruntées aux années 70, d'où anachronisme puisque l'histoire se déroule dans les années 90. The Informant donc est encore une fois un exercice de style qui a l'apparence d'un brouillon. Alors qu'il nous emmène dans les complots des grandes multinationales, là où il devient intéressant, c'est quand il revient sur son personnage principal qui change d'avis et de version au gré de la situation. Voilà en peu de temps, donc, quelques 20 films, la carrière de Soderbergh, un réalisateur doué qui tient la caméra sur ses films et qui fait parfois même le montage, comme la production. Un réalisateur qui navigue entre films d'auteur et films de divertissement, mais plutôt bien fichu, qui réagit bien souvent en producteur plus qu'en réalisateur se posant la question du nombre de spectateurs. C'est sans doute ça qui lui permet de se mêler à tous les publics. Voilà. C'est fini pour donc cette filmographie. En un clin d'œil de Soderbergh.
Mais exhaustive. Alors, en un clin d'œil, mais...
Quasiment exhaustive, parce qu'il a fait aussi des séries, enfin une courte série, voilà. Alors, à noter qu'il n'y a aucun livre, enfin j'en ai pas trouvé, aucun livre vraiment sur Soderbergh. Enfin, il faudrait que je recherche mieux, peut-être. Mais que, finalement, là où il réussit mieux, Soderbergh, c'est quand même en France. J'ai regardé toutes les entrées, et c'est quand même en France, après en Espagne, enfin voilà, parmi les pays européens, un peu en Italie. Et il marche beaucoup mieux en France donc, qu'aux États-Unis. Ça vient sans doute du fait que ça reste quand même un auteur quand il se met à faire des films limite expérimentaux. Voilà, mais vous voulez peut-être ajouter des choses parce que vous avez été forcément spectateur aussi des films de Steven Soderbergh.
Non, bah peut-être rajouter. Oui, moi, on a parlé. Tu as parlé très rapidement de Kafka. Moi, je trouve que c'est un des films les plus intéressants de Soderbergh, même si bon, il y a quelques maladresses aussi avec ce film. Mais c'est pas une adaptation. C'est pas un biopic non plus de l'écrivain. C'est quelque chose de.
Il se sert d'éléments.
Voilà, il fait de l'écrivain Kafka donc un personnage qui est aux prises donc avec un monde comme tu disais très brésilien. Qui engendre la paranoïa. C'est assez rigolo de faire tous les liens qu'il y a avec le film de Terry Gilliam. Il y a Yann Holm, par exemple, qui joue dans ce film, qui joue aussi dans Brésil. Il y a plein de petits détails comme ça. Il y a une bande de terroristes aussi ou d'activistes qui luttent contre cette sorte de gouvernement. Donc c'est le château.
Dans les
romans de Kafka. Et ça, c'est un bon film. À mon avis, Jeremy Irons, c'est encore une fois excellent. L'anglais aussi, moi c'est un film que j'aime bien, qui est un petit film, mais c'est vrai que le personnage de Tyrone Stump est assez sympathique.
Il doit venger sa fille, hein. Voilà. Il sort de prison, il vient d'Angleterre, il va venger sa fille, il découvre le milieu un peu des malfrats à Los Angeles.
Voilà. Et ça, c'est un autre film aussi à voir, puis Solaris. Voilà, qui est à mon avis à mettre aussi en haut du panier de sa branche, sa veine artistique cinéma d'auteur.
Et Hors d'atteinte, vous en pensez
quoi ? Ça, je n'ai pas vu.
Vous n'avez pas vu, voilà.
Et toi, Boris ? Moi, j'aime bien, en fait, tout ce qu'il entreprend, quoi. J'aime bien quand il entreprend le cinéma commercial, comme lorsqu'il entreprend le cinéma d'auteur. Après, bon, voilà, il y a des films qui valent plus le coup que d'autres. Mais, que ce soit dans un cas comme dans l'autre, moi, ça m'a à chaque fois Bubble. Ouais, ça, Solaris, effectivement, m'ont beaucoup plu. Puis comme après son cinéma d'exploitation. Mais bon, moi, je suis pas après spécialement érudit de Soderbergh, donc je me suis pas spécialement arrêté sur le bonhomme. Ce qui fait que je vais pas non plus pouvoir trop m'étendre, je pense.
Moi non plus, d'ailleurs. Hein, moi, je sais qu'il y a plein de films qui m'ont frappé, mais j'ai envie de me refaire la totale, en fait, des Soderbergh, ouais. Parce que je les ai suivis à mesure qu'ils arrivaient en salle, en fait. Enfin, voilà, moi, je l'ai découvert avec son premier film, ensuite j'en ai suivi d'autres. Je crois qu'il m'en manque deux, simplement. Il y en a deux que j'ai pas vus, dont Girlfriend Experience. Et je me promets de me refaire la totale très très prochainement. Parce que je sais qu'à chaque fois, je prends plaisir à voir ces films. Alors, on a été long, enfin j'ai été long d'ailleurs sur le sujet, mais c'est normal, hein, 20 films, c'est pas rien. Et donc on va continuer.
Oui, on va en profiter peut-être pour faire une petite pause musicale, reposer vos neurones, essayer de produire un peu de cerveau disponible, tout ça, pendant que vous écoutez la radio. Donc aujourd'hui, en fait, sort en salle un film qui devrait en faire bondir certains, en faire bien rigoler d'autres et en faire danser beaucoup. Je veux parler bien sûr du remake de la comédie musicale culte d'Alan Parker, Fame, sorti en 1980, qui va nous replonger au sein de la Fame Academy à la suite de jeunes talents prêts à vendre père et mère pour un quart d'heure de gloire. Donc le remake est réalisé par un jeune chorégraphe américain, Kevin Tancheron, et ce Fame version 2009, s'il va peut-être devenir le film culte d'une nouvelle génération d'ados en mal de reconnaissance, permettra également de faire redécouvrir à certains le film original. Donc le Fame d'Alan Parker a été réalisé en 80, et c'est la première comédie musicale du réalisateur, donc avant The Wall, dont on avait parlé il y a quelques temps de ça dans Cinérama, The Wall 1982, et avant que le cinéaste ne renoue avec le film musical pour les besoins de l'excellent The Commitments, sorti en 1991.
Il y avait Evita aussi, non ?
Oui, juste avant The Commitments, je crois.
Et Bugsy Malone, mais c'était bien antérieur, il me semble.
C'était également une comédie musicale ?
Ouais, il y a de la musique dedans.
Ouais. D'accord. C'était avant les années 80. Avant 80. Ouais.
C'est bien ce que je disais, il aurait fallu que je dorme cette nuit. Donc le Fame d'Alan Parker n'est pas du tout la première comédie musicale du réalisateur avant The Wall. Voilà, donc l'histoire de Fame suit une bande de jeunes gens pour qui la musique, la danse et le chant sont l'unique raison de vivre. Donc après avoir réussi le concours d'entrée à la glorieuse High School of Performing Art, ils vont suivre pendant 4 ans les enseignements dispensés et préparer le concours final pour tenter de percer dans le monde cruel du showbiz. Donc le film alterne les chorégraphies et les scènes plus intimistes sur les premiers émois adolescents, la difficulté qu'il y a à devenir une célébrité. Et Fame a permis donc à toute une génération de rêver en essayant de reproduire devant leur télévision les scènes de danse de leurs personnages préférés. Donc la musique du film de Parker, signée par Michael Gore, a été récompensée quand même par 2 Oscars l'année de sa sortie, donc meilleure musique et meilleure chanson originale, et le succès du film a poussé les producteurs, à en faire une série de télé qui a connu 6 saisons et qui rencontra elle aussi un grand succès. Le film a par ailleurs été adapté pour la scène plusieurs fois un peu partout, et dès janvier 2010, vous pourrez aller redécouvrir au Théâtre du Trianon à Paris l'adaptation française de cette histoire. Donc voilà pour ponctuer un petit peu Cinérama et vous faire écouter cette excellente bande-son de ce film de Alan Parker. Je vous propose d'écouter le tube du film.
Je débute, hein. Et juste, je le fade, je le chointe, ce truc, je laisse en entier 5 minutes. Dis-moi.
Non, on va le chanter. Hein. On va le chanter, ouais. Souvenirs, hein, on vous laisse chanter le refrain vous-même.
Voilà, enfin des souvenirs pas pour moi, puisque je n'ai jamais vu ce film. Non, j'étais pas né dans les années 80.
T'as pas de sœur peut-être, c'est ça?
Non plus.
Et donc, voilà. Voilà, moi j'avais des sœurs.
Donc c'était bien sûr le tube, le titre principal de Fame d'Alan Parker, interprété par Irene Cara, une musique de Michael Gore. Récompensé aux Oscars 1980 de la meilleure chanson originale.
Mais je pense que ma mère a dû danser dessus, effectivement. Et...
Oh, mais je pense toute une génération, quand même. C'est un film culte pour beaucoup de gens. Et le remake risque de faire, je dis risque, parce qu'à mon avis, ce sera sans doute moins bien que le film d'Alan Parker. Mais bon, je n'ai pas préparé d'a priori cette semaine. Non,
et puis ça a marqué des générations entières de filles, je pense, qui après se sont lancées dans des cours de modern jazz, hein, de danse modern jazz, c'est évident. Hein, voilà. Et après, modern jazz qu'on retrouve dans la Star Academy,
oui,
qu'on
voilà,
retrouve dans de nombreux clips, enfin tout ça, c'est...
Ah, c'est prémonitoire, Fame, pour tout ce qui se fait en vidéo, en téléréalité aujourd'hui, entre la nouvelle star, Star Academy, etc.
Absolument. Mmh. Boris, puisque tu es très en forme aujourd'hui, il faut te lancer. C'est parti.
C'est parti pour Source, donc, qui est donc un bref aperçu du cinéma coréen. Alors, quasiment inconnu au bataillon avant les années 80, le cinéma coréen, sud-coréen plus exactement, explose depuis les années 90 avec l'émergence de ce qu'il convient d'appeler la nouvelle vague coréenne, révélant aux yeux du monde la force de ses films et de ses réalisateurs. Ainsi, en l'espace de quelques années, des réalisateurs comme Kim Ki-duk, Kim Ji-woon, Bong Joon-ho, Im Sang-soo et bien sûr Park Chan-wook ont vu leur notoriété dépasser les frontières de leur pays pour concurrencer les cinémas européens et américains dans les festivals mondiaux desquels ils ressortent régulièrement récompensés. Le cinéma coréen tire sa force d'une part de sa diversité, faisant coexister des œuvres classiques, alliant puissance de l'image et études sociétales directement identifiables, comme l'illustre le travail de réalisateurs comme Ing Wong-taek ou Im Sang-soo, à des œuvres donc plus dynamitées, embrassant le genre, mais qui conservent cette même ambition in fine de décrire et de critiquer le contexte social, économique et politique de manière plus ou moins directe et métaphorique. Park Chan-wook, au même titre que Kang Ji-kyu ou Bong Joon-ho, fait partie de ces cinéastes un peu kamikazes qui dissimulent derrière l'emploi du morbide et du malsain la critique véritable et réfléchie d'une société coréenne en pleine expansion et paradoxalement encore en quête d'identité. Donc, né en 1963 à Séoul et après des études de philosophie, Park Chan-wook réalise son premier film Moon in the Sun's Dream en 1992. Ce projet est pour le réalisateur l'aboutissement de 4 années passées à hanter les plateaux de tournage pour économiser et gravir progressivement les échelons de la profession. Le film est cependant un cuisant bide commercial et le réalisateur va temporairement se reconvertir dans la critique avant qu'un projet de court-métrage intitulé Judgment retienne l'attention du festival de Clermont-Ferrand en 1999. La boîte de production Myung Film lui confie alors les rênes de l'adaptation du roman Delimited Military Zone qu'il rebaptise Joint Security, film évoquant donc la fraternité entre soldats nord et sud-coréens. La réussite commerciale et critique du film en 2000 va le placer désormais parmi les réalisateurs les plus prometteurs de sa génération. En 2002, Park réalise Sympathy for Mr. Vengeance, l'histoire d'un homme que la précarité va conduire au kidnapping, qui, bien que controversé, va définitivement confirmer le talent et le style choc du réalisateur. En 2004, c'est la sortie d'Old Boy, auréolée du Grand Prix du jury de Tarantino. Et en 2006, Park clôt sa trilogie de la vengeance avec Lady Vengeance, sorte de Old Boy bis avec une femme dans le rôle-titre. En 2007, Park Chan-wook surprend avec Je suis un cyborg, œuvre romantique et loufoque, s'articulant autour de deux individus internés dans un asile psychiatrique. Le film délaisse ainsi la thématique obsessionnelle du réalisateur pour traiter avec poésie et légèreté du rapport de l'individu à la société. Thirst, Ceci est mon sang est donc le 8e long métrage du réalisateur. Alors Thirst, c'est l'histoire de Sang-yoon, jeune prêtre catholique de Busan, donc la ville la plus importante de Corée du Sud, qui, lassé par la routine de sa vocation, décide de partir dans une mission en Afrique afin de servir de cobaye pour l'expérimentation du vaccin d'un nouveau virus. Après quelques temps d'incubation, la maladie finit par se déclarer et Sang-yoon se retrouve sur le point de mourir lorsque la transfusion d'un pochon de sang le sauve in extremis. Le prêtre ne va pas tarder à se rendre compte que les effets miraculeux de ce sang sont temporaires et que désormais le seul moyen de repousser la propagation de la maladie est de se procurer du sang humain frais quotidiennement. Alors si cette introduction qui revisite le mythe du vampire de manière pseudo-originale pouvait donc annoncer une tentative coréenne de se lancer dans une orgie de sang, de tension et de violence éhontée, le spectateur de Thirst, Ceci est mon sang en saura pour ses frais. Non, car passé les 15 premières minutes du film, et tandis qu'à l'écran le prêtre se découvre pendant quelques plans d'une rare ingéniosité de nouvelles aptitudes extraordinaires, comme la nouvelle acuité de ses facultés sensorielles ou la capacité à pouvoir défier les lois de la pesanteur, l'histoire du film change de cap pour se concentrer sur l'histoire passionnelle et contrariée de deux amants, directement sortie du roman Thérèse Raquin d'Émile Zola. Le cœur de Thirst va ainsi consister en la rencontre et la passion de Sang-yoon et Tae-ju, jeune femme mariée à un ancien ami d'enfance du prêtre, reléguant le thème du vampirisme en toile de fond de l'histoire. Sur le papier, on serait tenté de penser « bah pourquoi pas ?» d'autant que Park Chan-wook s'y prend habilement pour ficeler son histoire et insérer des éléments scénaristiques a priori secondaires, mais qui apparaissent en définitive comme pivot du récit. Il en est ainsi de la réputation de miraculé que se traîne Sang-yoon depuis sa guérison improbable et son retour en Corée. C'est cette réputation qui va entraîner le pèlerinage pieux auprès du prêtre de malheureux espérant le miracle, parmi lesquels va se trouver donc Madame Ra, la mère de son ami d'enfance maintenant atteint d'un cancer. Malheureusement, la tentative du réalisateur à coupler genre et drame romantique va s'avérer bancale, les efforts de crédibilisation et d'implantation de la romance empiétant grandement sur la trame fantastique de l'histoire et vice-versa. Donc arrivé au chaud dans la maisonnée des rats, le spectateur va assister au rapprochement du prêtre devenu vampire et de Teju, belle jeune femme donc d'apparence timide et taciturne, mais qui rêve en secret d'assassiner un mari que le sort aura contraint d'épouser sans envie. Ce rapprochement va être quelque peu difficile lorsque Teju va se rendre compte de la nature monstrueuse de son amant suceur de sang. Il est alors plaisant de goûter à l'ironie et à l'humour décalé du réalisateur lorsqu'il s'empare de la figure du vampire pour en faire un être pas tant esclave de la soif avec un grand S, dont l'épanchement est pourtant indispensable à sa survie, mais un être soumis au plaisir de la chair, un plaisir destructeur qui va peu à peu gommer sa partie encore rationnelle et humaine. Cela donne lieu dans le film à de longues scènes d'un érotisme rare dans le cinéma coréen et d'une manière générale asiatique. Le réalisateur va ainsi passer beaucoup de temps à décrire l'évolution de la relation entre les deux protagonistes pour arriver à signifier l'inversion des rôles de prédateur et de proie, achevée par la prise de conscience de Teju de l'ascendant qu'elle détient désormais sur le vampire. Mais c'est à force donc de vouloir trop bien faire que Park Chan-wook en fait trop et finit par laisser s'échapper l'atmosphère de son film. Partagé entre effet choc propre au film de vampire et romance, le réalisateur semble alors avoir de plus en plus de mal à définir son fil directeur, perdant par la même occasion le rythme et la portée dramatique de son film. Le montage cut des séquences, pourtant brillamment employé dans la trilogie de la vengeance, va apparaître alors maladroit, et la profusion d'effets plus ou moins spéciaux et de scènes violentes dans la dernière partie du film n'engendrera pas de miracle. Donc véritable séance de rattrapage, ces scènes tomberont à plat les unes après les autres, et ne sauront générer en quelques minutes la tension qui jusque-là faisait cruellement défaut au film. Thirst, ceci est mon sang, est donc un film moyen que l'on retiendra pour l'originalité de ses idées et la beauté de certaines scènes prises à part. Mais c'est l'agencement de cette multitude d'idées qui va pêcher par ambition du réalisateur, s'avérer plutôt faible et finalement eh bien, plomber le film. Donc voilà, pour moi, Park Chan-wook n'a pas été spécialement convaincant. Il y a des bonnes idées dans ce film. Il y a effectivement des plans qui, pris en tant que tel, valent le coup, notamment lorsqu'il y a des débauches de violence avec profusion d'hémoglobine sur carrelage blanc. Voilà, ça c'est assez bien fait. J'ai aussi trouvé que l'interprétation des comédiens, donc il y a Song Kang-ho, hein, qui est un comédien coréen très prisé, qui a tourné avec Bong Joon-ho dans Memories of Murder, par exemple. Il n'est pas forcément bien utilisé. Lui en soi, on sent qu'il fait son possible et qu'il est habité par son personnage, mais au niveau de l'histoire, eh bien, il va y avoir des moments où ça va tomber un peu à plat, il sera pas convaincant, on va pas croire à forcément cette son envie de garder, de conquérir sa belle, on va pas croire à des revirements de pensée, voilà. Donc c'est assez dommage au final de voir que le film accumule comme ça des bourdes de direction d'acteur ou de direction de scène.
Dernier Park Chan-wook, donc, à voir au Diagonal Capitole, évidemment, en version originale sous-titrée. On va maintenant parler du premier film véritable de Nicolas Hulot. Alors, c'est un film qu'il n'a pas fait tout seul, d'ailleurs. Il l'a fait aussi avec Jean-Albert Lièvre. Il s'agit du syndrome du Titanic. Alors évidemment, les médias en ont beaucoup parlé. Il se trouve qu'il y a eu une projection presse et une avant-première aussi au Gaumont. C'était il y a 3 semaines déjà. Et à ce moment-là, donc, plutôt que de faire l'interview de Nicolas Hulot, dont je m'étais tapé déjà toute la conférence de presse, j'ai préféré aller voir Jean-Albert Lièvre, donc, qui lui s'est occupé des images de ce film, puisque c'est surtout dans les images, finalement, que moi j'ai ressenti quelque chose comme de l'ordre d'un malaise, ce que voulait d'ailleurs faire passer Nicolas Hulot. J'en parle un tout petit peu après, simplement, donc j'ai mêlé l'interview de Jean-Albert Lièvre, qui est très courte, avec la bande-annonce un peu inquiétante de ce syndrome du Titanic.
Il y a eu le progrès, ce fameux progrès, indéniable. Comme beaucoup, je l'ai pris longtemps pour un processus irréversible, dans les mains duquel on pouvait s'abandonner.
On souhaitait toucher les gens par l'émotion, par le choc visuel. Et dès le départ, on avait envisagé de faire un film avec très très peu de commentaires pour laisser place à la force des images. Et le cinéma se prête mieux à ça. Le cinéma, vous êtes avec une salle captive, plongée dans le noir, sur un écran d'une certaine dimension. Le son, la bande sonore peut supporter les images de manière plus intense qu'à la télévision. Et pour nous, ça s'est avéré immédiatement le cinéma. Pour le même film à la télévision était un film journalistique qui a déjà été fait d'ailleurs. Les sujets qu'on traite ont été traités en les traitant d'une manière graphique, esthétique, cinématographique, enfin, moi je l'espère. Je pense qu'on touche les gens différemment et peut-être on les interpelle mieux.
On a pu construire des routes en plein désert. On a su rapprocher des hommes. Je nous observe standardisés, quasi désintégrés. Je nous regarde balloter entre le virtuel et le réel que l'on n'arrive même plus à distinguer.
J'ai pas mal repéré seul avec une petite caméra. Maintenant, ce sont des caméras qui permettent d'utiliser le fruit des rushs au cinéma. Donc beaucoup de plans ont été faits seuls d'une manière un peu volée comme un touriste. Je pense aux plans du métro, des plans dans les boîtes de nuit, etc. Ensuite, on a pris le parti de travailler en équipe très réduite. On était trois au maximum, souvent deux, et on a tourné très longtemps. C'est-à-dire qu'on allait à la rencontre des gens, il fallait un certain temps pour se faire accepter, pour se faire oublier. Et au bout d'une heure, deux heures, trois heures, les gens nous oubliaient et la scène qu'on souhaitait voir se déroulait de manière magique. Les Homeless à Los Angeles, par exemple, on a passé deux soirées avec eux sur place la nuit pour pouvoir ensuite avoir ces attitudes et devenir faire partie de l'ambiance et de devenir presque un des leurs.
Comment se résigner quand on voit que le superflu des uns est sans limite alors que l'essentiel des autres n'est même pas satisfait? On ne doit rien admettre de tout cela, car c'est tout simplement inadmissible. That change will
begin with you. On vous voit sur plusieurs continents. Quelles ont été les principales difficultés finalement lors des tournages?
La grosse difficulté, ça a été Lagos. Parce que Lagos est une ville très dangereuse, très difficile, et on m'avait assuré que c'était quasiment impossible de descendre avec une grosse caméra dans les rues de Lagos. Je m'étais dit, si j'y vais avec une petite P2 comme je l'avais fait à d'autres endroits, ça m'a obligé d'être au contact des gens, donc ça va être encore plus difficile. Donc j'ai pris le parti pris de prendre une grosse caméra avec une optique assez importante, une 400 mm. Et on est allé par étapes. On a commencé, Lagos est une ville qui est parsemée d'autoroutes, donc on a commencé par s'arrêter sur les autoroutes et à faire des plans à la longue focale de loin, et progressivement on est rentré en contact avec chaque quartier est contrôlé par des gangs qu'ils appellent les Area Boys. Et on a pris contact avec ces gangs qui nous ont escortés, qui nous ont aidés, et petit à petit on a réussi à filmer. Donc ça c'était difficile, et ensuite on a eu des problèmes dans d'autres pays, je ne peux pas vous donner précisément parce qu'on s'est fait saisir tous les rushs et tout le matériel. On a mis en danger les gens qui nous avaient aidés à rentrer dans ces pays-là, parce que maintenant ça devient de plus en plus difficile. Il y a une époque où vous parliez de documentaire, les portes s'ouvraient, aujourd'hui vous parlez de documentaire, les portes se ferment. Et ça devient de plus en plus difficile d'avoir des autorisations dès qu'en plus on parle de film environnemental ou... Et quand on se renseigne un peu sur le co-auteur et qu'on voit que c'est Nicolas, on voit tout de suite de quoi il s'agit. Et donc,
Je croyais à l'abondance. Et pour finir, je découvre la rareté. Je ne suis pas né écologiste, je le suis devenu.
La Chine, par exemple, a été faite sans autorisation du tout. En louant du matériel à Pékin. Et moi, je suis passé en touriste et en travaillant avec une équipe 100% chinoise, ce qui me permettait d'intégrer des endroits de manière plus facile.
Et si on prend les images, notamment des mines, là, est-ce que vous avez eu des difficultés à tourner toutes ces images?
Les mines, c'est fait aussi sans autorisation. C'est pour ça aussi qu'on ne cite pas les compagnies ou quoi que ce soit. Effectivement, il était impossible. On n'a pas pu avoir... comme on n'avait pas pris le parti pris de filmer tout ça en aérien, sauf pour les mines de Virginie, au Brésil, on y est allé à Troyes, sur la crête de la montagne d'en face, et on a essayé de faire ce qu'on pouvait. Et voilà, c'est des images volées. Enfin, volées. C'est des images faites sans autorisation de la compagnie minière.
Si bien qu'en définitive, c'est plus simple même de filmer des personnes que de filmer des biens qui appartiennent à des compagnies.
Le modèle économique dominant n'est plus la solution, mais bien le problème. Je suis un enfant aussi, moi, de cette société de consommation.
je dois avancer pas à pas vers plus de cohérence. Jusqu'où suis-je prêt vraiment à aller dans le choix, dans le renoncement?
Voilà donc la voix de Nicolas Hulot qui, me semble-t-il, moi, est un problème de ce documentaire parce qu'elle est relativement omniprésente. Ce n'est pas une voix que j'apprécie non plus forcément. Alors il paraît que d'ailleurs, ils ont pris la version où ils s'entraînaient à faire les commentaires parce qu'au début, ça ne devait pas être lui finalement. Après, ils se sont dit, mais si, c'est mieux que ce soit toi parce que les gens te connaissent, les gens t'aiment bien forcément. Un capital sympathie énorme pour Nicolas Hulot qui, on le rappelle, donc, a fait les bonheurs de TF1 avec Ushuaïa pendant longtemps. Et donc ce discours est relativement omniprésent, c'est un discours évidemment politique, anticapitaliste, on peut le dire en tout cas, enfin, c'était très net dans cette bande-annonce, pour Nicolas Hulot, il est temps d'arrêter et de penser le monde autrement. Voilà, donc ça pourrait aussi ressembler à une espèce de devoir, de peut-être pas de terminal quand même, mais voilà, enfin bon, une espèce de devoir un peu systématique. En revanche, les images sont plutôt belles. Je pense qu'ils ont très bien monté le documentaire aussi. Ils sont allés partout. Donc, comme le disait Jean-Albert Lièvre, ils sont allés partout. Parfois, ils sont cachés, parfois, ils sont pas cachés. Et surtout, on voit pas la Terre. Voilà, c'est un film quand même, enfin, contre le gâchis. C'est un film qui se prononce pour une écologie. Et là, c'est pas la Terre vue du ciel. Enfin, c'est vraiment la Terre vue des gens et parfois, enfin, en tout cas, enfin, vue de la Terre. Voilà. Et donc ça fait aussi du bien parce que c'est les gens à chaque fois dans leur milieu. C'est pas simplement la belle nature. Et par ailleurs, le début est vraiment super beau avec des très belles images. Et puis après, on glisse vers autre chose. Plus ça va, plus on voit des gens et plus on voit, eh bien, comme il le disait, hein, le superflu de certains et puis l'essentiel qui est pas garanti pour certains autres. Voilà. Donc si vous aimez Nicolas Hulot, si vous aimez malgré tout les belles images, vous pouvez aller voir le syndrome du Titanic. Voilà, moi j'aurais préféré qu'il en dise moins, surtout. Voilà, enfin que ce soit moins un discours politique et que ce soit plus un documentaire.
D'autant qu'il y a un sacré bourgeonnement quoi de films un peu sur cette thématique ces derniers temps. Nous restons sur Terre là qui était sorti il y a quelques mois de ça. Après il y a eu le film là de Besson.
Home,
ouais, voilà.
Oui, c'est une version. Yann Arthus Bertrand, produit par Besson.
Version au cinéma de La Terre vue du ciel. Ouais. Mais il y avait eu d'autres films, ouais, il y a un peu plus longtemps, qui étaient plus sur l'alimentation, par exemple.
Oui, mais il y a Notre pain quotidien, qui là, en revanche, il y a aucun discours sur notre pain quotidien. On voit simplement comment on élève des poulets, comment on élève des bœufs, enfin voilà. Donc là, c'est le contre-pied, hein, notre pain quotidien.
Mais c'est vrai que ça, ça me fait penser à ce film donc de Godfrey Reggio, film qui était sorti, je sais plus en quelle année.
Produit par Coppola.
Voilà, produit par Francis Ford Coppola, un film qui s'appelait Koyaanisqatsi, qui était une sorte de documentaire un peu expérimental aussi, qui était complètement dénué de discours oral, où tout le discours était fait par le montage et surtout par la musique de Philip Glass, qui avait signé une partition assez extraordinaire pour ce film. Et on retrouvait cette idée où on part de la nature sauvage et où on s'approche petit à petit de l'humain. C'était pas, enfin si, c'était un film à message écologiste, mais c'était pas non plus, je sais pas comment dire, didactique, c'était plus illustratif. Enfin, ça montrait, c'est une sorte de résumé de la planète Terre, quoi. Voilà, un peu centré quand même sur le monde occidental. Mais ça, par exemple, c'est un film à recommander justement à tous ceux qui ont une sensibilité à ces grands sujets, qui aimeront peut-être le film de Nicolas Hulot. Donc voilà, Koyaanisqatsi.
Film sorti en 82 qui n'existe pas. Si, en DVD, il existe en DVD. Oui. Donc voilà.
Il y en avait eu deux autres. Il y avait eu Powakatsi qui était plus sur l'hémisphère sud, pour le coup, sur le même principe, sans jamais de discours parlé. Et on n'en a pas parlé, mais je crois que Soderbergh a produit, au moins. Je crois que c'est toujours Reggio qui réalisait, mais Soderbergh a produit pour la télé le troisième volet, Nakoikatsi, qui était plus sur le monde, sur l'informatique, sur la technologie, sur la télévision, sur les médias, etc. Voilà, donc c'est une trilogie de documentaires comme ça, sans parole, qui sont très intéressants.
Eh bien, merci pour ce complément d'information. Donc, le syndrome du Titanic, eh bien, c'est essentiellement dans les grandes salles, hein, dans les multiplexes, puisque ce n'est pas du tout un documentaire à essai, et loin de là. Vous pouvez aller voir. Alors, si vous avez vu Home et que vous avez aimé, je pense que vous pourrez aussi aimer. Enfin, moi, j'ai préféré, en tout cas, le Nicolas Hulot à Home de Yann Arthus-Bertrand et de très loin. Voilà. Parce que j'ai l'impression que Yann Arthus-Bertrand, c'est vraiment de l'image pour l'image. Alors que chez Hulot, il y a quand même un travail très net sur l'esthétisme du cinéma. Et Jean-Albert Lièvre en a un peu parlé dans cette interview. Cinérama se poursuit, dernière ligne droite. Te sens-tu encore fébrile, Boris ou...
Assez, oui.
Oui, assez. Donc, c'est toi, Marthe.
Oui, bah, pour rester dans la thématique, quand on aura bien ruiné la planète, quand on aura tout détruit, qu'on sera 33 milliards sur cette bonne vieille Terre, eh bien là, il faudra commencer...
Certains sur Mars.
Voilà. Justement, il faudra commencer à essaimer à travers la galaxie ou les galaxies vers des exoplanètes accueillantes. Et c'est donc le prétexte de départ de Pandorum, dernier film de Christian Alvar, dont je vais vous parler très rapidement. Donc l'histoire est assez simple. Ce sont deux cosmonautes qui se réveillent d'un long sommeil cryogénique à bord de l'Elyséum, donc un vaisseau de colons parti de la Terre à destination de Tanis, une exoplanète lointaine, choisie pour servir de nouveau berceau à l'humanité après que la Terre ait été complètement ravagée par la pollution et la guerre. Donc malheureusement, nos deux zigotos qui viennent de se réveiller ont un peu de mal à se rappeler de leur identité et également de leur mission. Et le pire, c'est que le vaisseau semble avoir subi une panne importante qui met en danger cette mission. Alors en essayant de comprendre ce qui s'est passé, ils vont assez rapidement se rendre compte qu'ils ne sont pas les seuls à être réveillés à bord et que leurs compagnons de voyage sont loin d'être sympathiques et sont plutôt adeptes de la chasse à l'homme et du cannibalisme. Voilà donc, en partant de ce prétexte de départ prometteur, même s'il n'est pas particulièrement original, Christian Alvar, qui est un réalisateur allemand qui nous avait offert le thriller Antibodies sorti en 2006, va nous proposer une plongée dans l'enfer claustrophobique et mortel de l'Elyséum. Donc voilà, bon, le film a quelques bons points sur lesquels je peux insister. Donc ce concept de départ avec un vaisseau de colons à destination d'une autre planète. Donc c'est un concept qui est assez souvent utilisé dans la littérature de science-fiction, avec des vaisseaux multigénérationnels, des colonisations de planètes, etc. Mais par contre, c'est assez peu utilisé au cinéma. J'ai cherché un petit peu des films ayant cette thématique, j'en ai pas trouvé beaucoup. J'ai pensé l'avant-dernier film des studios Pixar, Wall-E, qui nous montrait justement un peu le même sujet, le même scénario, avec une Terre ravagée par la pollution, et donc un vaisseau qui part avec des colons, qui est censé revenir une fois que la pollution se sera... dispersé. Il y a également une série télé de Irwin Allen, Perdu dans l'espace, Lost in Space, une série télé qui a été diffusée dans les années 60, fin des années 60, qui avait été adaptée au cinéma avec Gary Oldman, entre autres, mais qui s'écartait un peu de cette idée de colonisation spatiale. Donc voilà, il y a quelques bonnes idées de scénario à l'intérieur de ce gros prétexte. Les comédiens sont assez convaincants. Ben Foster, qu'on a pu voir dans Otage ou dans X-Men l'affrontement final, par exemple, est assez convaincant. Dennis Quaid est très bien aussi. Et voilà, il y a quelques images assez magnifiques aussi du vaisseau, par exemple, vu de l'extérieur. On retrouve un peu une esthétique comme dans Sunshine de Danny Boyle, avec une sorte de magnificence du vaisseau spatial. Bon, on peut remonter plus loin à 2001, Odyssée de l'espace, où on avait ces plans aussi magnifiques dans l'espace. Il y a quelques images comme ça qui marquent. Par contre, du côté des points faibles, il n'y a pas de vrai parti pris esthétique pour le décor, pour l'intérieur du vaisseau, ni non plus pour les créatures que vont rencontrer donc les personnages. Les décors, on a l'impression de les avoir vus mille fois depuis Alien, depuis Event Horizon plus récemment. Et les monstres, bon, n'ont pas de véritable identité ou de véritable design original. Hein. On pense aussi bien aux créatures de The Descent ou à des vampires comme dans Blade, par exemple. Voilà, il n'y a pas vraiment de caractérisation particulière, de choix esthétique fait par le réalisateur sur ces personnages. Donc il y a de grosses incohérences aussi hein, dans le scénario, des raccourcis voilà, où une scène va suivre une autre alors qu'elle n'a quasiment aucun rapport avec ce qui se passait précédemment. Un personnage entouré de monstres vont d'un seul coup s'échapper par une coursive. Mais bon, là on est dans des raccourcis, des facilités de série B un petit peu. Mais bon, dans l'ensemble, ça embrouille un peu trop cette histoire qui est déjà assez complexe et ça la rend un petit peu confuse. Alors, je ne vais pas vous raconter la fin, mais la fin aussi est un des points faibles du film, même si bon, le concept aurait pu donner naissance à une vraie histoire de science-fiction intéressante, intelligente. Donc voilà, et à mon avis, le plus gros problème de ce film, qui se présente quand même comme un film d'épouvante dans l'espace, voilà, qui appartient au genre dont fait partie Alien, dont font partie Event Horizon, dont font partie Mutant, eh bien c'est un film malheureusement qui ne fait pas peur. Voilà, on ne sursaute qu'une ou deux fois, et ce grâce au traditionnel grand coup de cymbale. Donc ça c'est un peu dommage parce qu'on aurait pu entretenir une ambiance vraiment paranoïaque, claustrophobique, et non, on ressort les vieilles ficelles du cinéma d'horreur, donc avec voilà, ces plans très lents, avec la musique qui monte, et puis un grand coup, un grand bruit pour faire sursauter le spectateur. Voilà, et sursauter également ses pop-corns. Donc voilà, au final, Pandorum, c'est une ressucée d'Alien, de tout un tas de films récents ou moins récents. Le réalisateur n'arrive que trop rarement à exploiter le lieu et les implications de son scénario, donc c'est une petite série B qui supporte la vision, mais qui sera oubliée aussi vite qu'elle a été vue. On aurait peut-être pu le sortir directement en DVD, celui-là.
Ainsi s'achève Cinérama. On va parler juste des événements.
Rapidement, oui. Alors, deux événements pour ce que j'ai pu noter cette semaine. Donc, une avant-première mardi prochain à 20h au Diagonal Capitole de Rachel. Donc, c'est un film voilà, qui sera présenté en avant-première. Et suivi d'un débat avec la réalisatrice, le producteur et également l'AFPS, qui doit être une association. Laissez-moi chercher. Pourquoi ça tombe toujours sur moi les
C'est pas grave.
Voilà, c'est l'association France-Palestine Solidarité.
Voilà, c'est ça. Bien sûr. J'aurais pu t'aider, Martin, en plus.
Merci.
Mais non, mais t'es fébrile, toi, tu es hors jeu.
Voilà, donc Rachel, ce sera mardi 13 à 20h, donc suivi d'un débat. Et vous avez également.
Attends, je m'en occupe. C'est projection spéciale donc, de Un Prophète avec Patrick Bedos, qui ouais. va animer un débat derrière, une présentation aussi, j'imagine. Alors par contre l'horaire...
C'est samedi 10 à voilà. 17h20, voilà ça marche
Patrick.
Beaucoup. À 17h20 et 17h20 suivi d'un débat. Voilà, donc la séance de 21h50 prévue normalement tous les jours sera à 22h15 puisqu'il y a le débat. Voilà pour les gens qui ne voilà, veulent pas du infos. Tout aller voir le débat mais veulent aller voir Un Prophète.
Voilà, donc Patrick Bedos qui aurait pu venir parmi nous mais qui n'a pas pu malheureusement, mais on le réinvitera bien dans les prochaines émissions sur n'importe quel thème parce que c'est un grand connaisseur du cinéma.
Notamment français, j'ai cru comprendre.
Notamment français, effectivement, ouais. Il en connaît un rayon et plein d'anecdotes. Voilà. Patrick, si tu nous écoutes, on te salue. Sinon, ben voilà, que dire, sinon qu'on se retrouve la semaine prochaine et qu'à la fin de ce générique, qu'on pourra écouter bien traditionnellement un extrait de film. Et là, j'ai choisi Truffaut avec L'homme qui aimait les femmes, qui sera projeté bientôt pendant le Cinémède. Cinémède qui va débuter dans quelques temps. Voilà, à bientôt.
À la semaine prochaine.
Voilà, soignez-vous bien. Hein.
Moi, rien n'est plus beau à regarder qu'une femme en train de marcher pourvu qu'elle soit habillée d'une robe ou d'une jupe qui bouge au rythme de sa marche. Il y a celle qui file rapidement vers un but, peut-être vers un rendez-vous. Il y a celle qui se promène avec sur le visage un air de loisir. Certaines sont si belles vues de dos que je retarde le moment d'arriver à leur hauteur pour ne pas être déçu. À vrai dire, je ne suis jamais déçu parce que celles qui sont belles de dos et moches de face me donnent une sensation de soulagement.
Cinérama.
Puisque malheureusement, il n'est pas question de les avoir toutes.
Sur Divergence FM.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile.
Ah non, c'est le 14.
Non, le 14, c'est les télégrammes.
Mais les pompiers, alors.
Les pompiers, c'est le 18. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner, faites le 12. Sans rancune.